tous et bienvenue dans l'ABC de la foi, l'émission qui explore chaque semaine les mots-clés de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Eucharistie. Ce genre de mot apparemment très simple pour ceux qui le connaissent et très compliqué ou mystérieux pour les autres. Je suis allée vous interroger et j'ai trouvé vos remarques passionnantes. On écoute vos réactions au mot Eucharistie, on se retrouve tout de suite après.
Ça me fait penser à la messe de minuit. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est le seul moment où j'allais à l'église quand j'étais petite avec mes parents. Et ça me fait penser à l'encens aussi qui est déversé. Et tout ça, bon, l'hostie. Après, je ne suis pas allée assez à l'église pour savoir exactement ce que c'est. Mais voilà, ça me rappelle un réconfort, un moment agréable de partager peut-être sa foi ou tout simplement un moment à Noël.
Un temps de partage ? Ça serait l'Eucharistie, oui, pour moi, ça serait le partage.
J'avoue que je sèche un peu là, parce que comme je me suis un peu éloigné, moi, de la pratique, on va dire, chrétienne. Donc, en vacances, d'ailleurs, je suis retourné un petit peu à la messe, parce que je suis plus apaisé, et puis plus de temps et tout ça. Puis je suis resté pendant deux trois célébrations à pas prendre l'Eucharistie parce que je sais pas pourquoi je me sentais étranger à ce rituel on va dire. Et puis enfin la troisième fois je suis allé communier. Bon, c'est tout ce que je peux en dire. C'est le rituel qui est quand même très très mystérieux malgré tout, puisque on dit que c'est le corps du Christ, mais c'est en même temps très concret et très abstrait.
Pour moi, c'est le moment fort de la messe, pour lequel je vais à la messe.
L'Eucharistie est le centre de ma foi, de ma vie. Chaque jour, je suis appelée à vivre ce sacrement pour me nourrir, pour avoir la force d'avancer jour après jour.
Et oui, effectivement, il y a bien un lien entre l'Eucharistie et la messe. L'Eucharistie, c'est un des mystères fondamentaux de la foi catholique. Et j'ai conscience que c'est un vrai défi d'essayer de l'expliquer en quelques minutes. Louange, remerciement, partage, rassemblement, ce sont autant de mots pour définir l'Eucharistie. Sans oublier son origine grecque, puisque « Eucharistia » signifie « action de grâce ». Le mot « Eucharistie » est employé pour désigner la grande prière de louange qui est au centre de la vie du croyant catholique et qui s'appelle la messe. Pour les chrétiens, l'Eucharistie rappelle le dernier repas du Seigneur avec ses apôtres, pris la veille de sa mort, le jeudi saint. Les quatre évangiles rapportent la dernière scène du latin « cena », le dîner. Et saint Paul en fait également un récit précis. Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». De même, après le repas, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi ». Vous retrouvez presque ces mêmes paroles lors de la célébration de chaque messe. On réduit souvent l'Eucharistie au moment de la communion, le fait de manger l'hostie consacrée, le corps du Christ, à la messe. Mais l'Eucharistie, c'est l'ensemble du rendez-vous qu'ont chaque semaine les chrétiens. La célébration de l'Eucharistie, la messe donc, comprend différents moments. L'accueil, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et l'envoi. Et toute personne est la bienvenue pour assister à une Eucharistie. Le mot Eucharistie est aussi utilisé dans un sens plus spécifique pour parler du corps et du sang du Christ présents sur l'autel après une prière toute particulière faite par le prêtre, la prière de consécration, où le pain et le vin deviennent alors, dans la foi catholique, la présence réelle du Christ, son corps et son sang. Pour l'Église, pour recevoir la communion eucharistique, il faut donc être baptisé, avoir fait sa première communion, partager la foi de l'Église et ne pas avoir sur la conscience de péchés graves. Je termine ce rapide tour d'horizon en vous rappelant ou en vous apprenant que l'Eucharistie fait partie des sacrements de l'initiation. C'est donc un des trois sacrements fondamentaux avec le baptême et la confirmation. Nous allons maintenant voir pourquoi l'Eucharistie est si essentielle pour la vie chrétienne. L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, dit le Concile Vatican II, dans la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium. Alors si c'est une source, c'est bien que c'est vital, parce que sans eau, on meurt. Et si c'est un sommet, c'est non seulement parce qu'on ne cesse pas de le contempler, mais aussi parce que c'est un point culminant de la vie chrétienne. Le pape Benoît XVI a justement écrit une lettre, le sacrement de l'amour, Sacramentum Caritatis, sur l'Eucharistie, comme source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. Il nous dit que l'Eucharistie est un mystère à croire, un mystère à célébrer, un mystère à vivre. Et je trouve que c'est une très belle manière d'essayer de contempler, de mieux comprendre ce qu'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est donc un mystère à croire. Quelle est la foi de l'Église au sujet de l'Eucharistie ? Dans ce sacrement, le sacrifice historique de Jésus sur la croix, qui a eu lieu un jour du temps à Jérusalem, est actualisé. Il est rendu présent de façon cachée, non visible, pendant la consécration. Et si c'est rendu actuel, si c'est rendu présent, c'est parce que l'Eucharistie est, à chaque messe, la prière du Christ lui-même qui nous conduit vers le Père. À la dernière scène, Jésus a pris du pain et du vin en disant ces paroles. « Ceci est mon corps ». Et ceci est mon sang. Il n'a pas dit que c'était un symbole, mais que c'était un fait. Et il a demandé à ses apôtres de faire ceci en mémoire de lui. À la messe, après la consécration, l'Eucharistie a l'apparence du pain et du vin, le goût et l'odeur du pain et du vin. Mais ce n'est plus du pain et du vin. Par la consécration, par l'action de l'Esprit-Saint, ils sont devenus le corps et le sang du Christ. Donc si les espèces du pain et du vin demeurent, leur substance a été transformée, d'où le mot, pour qualifier cette transformation qui se passe à la messe, la transsubstantiation. Dans l'Eucharistie, Jésus ne nous donne pas simplement quelque chose, mais il se donne lui-même. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » L'Eucharistie, donc, c'est un mystère à croire, nous venons d'en parler, et un mystère à célébrer. Par l'Eucharistie, le Christ façonne l'Église. Il nourrit la communauté chrétienne par son pain de vie, mais aussi par la parole que nous écoutons au début de chaque messe. Le père Henri de Lubac dit « L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église ». Et c'est quand même vertigineux de nous dire que depuis des siècles, l'Eucharistie ne cesse pas d'être célébrée aux quatre coins du monde. Des hommes et des femmes font parfois des dizaines de kilomètres à pied pour y participer et certains sont morts, martyrs, pour protéger la Sainte Eucharistie. À travers la communion au corps du Christ, en union avec l'offrande du Seigneur, les baptisés, le peuple de Dieu, deviennent un seul corps, le corps du Christ. L'Eucharistie, c'est enfin un mystère à vivre, parce qu'elle structure la vie chrétienne, elle est la respiration de la vie spirituelle. Et quand la messe se termine, tout commence. Toute notre vie est transformée peu à peu par la participation à l'Eucharistie. Nous sommes de plus en plus unis au Christ, donc de plus en plus donnés, attentifs à nos frères, de plus en plus témoins et engagés dans ce monde que Dieu aime et qu'il veut sauver. De nombreux saints témoignent de la façon dont l'Eucharistie a été comme le carburant de leur charité, de leur amour envers chacun. Alors, comment peut-être incarner davantage encore, avoir une vie eucharistique au quotidien ? Le premier exercice, peut-être, c'est de vivre dans l'action de grâce. Alors, pourquoi ne pas noter chaque soir un motif d'action de grâce ? Rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé de beau, de bon dans ma journée. les dépassements que j'ai pu vivre, les consolations reçues, les pardons donnés. Savoir rendre grâce ouvre le cœur. Un deuxième exercice possible, c'est de renouveler notre façon de vivre l'Eucharistie. Donc ne pas y assister en spectateur, mais y participer, en s'offrant réellement à Dieu, en lui apportant tout ce qui fait notre vie, et notamment au moment de l'offertoire, ce moment où le pain et le vin sont déposés sur l'autel. Pendant la messe, ne perdons pas une miette de la nourriture que nous y recevons, que ça soit en communion, en recevant le corps du Christ, mais aussi en écoutant la parole de Dieu à travers les lectures. Et puisque l'Eucharistie vient nous transformer en profondeur, pourquoi ne pas demander à l'Esprit-Saint, pendant la messe, de nous inspirer un acte d'amour, de fraternité, comme fruit de notre participation ? Un troisième exercice, pour approfondir, je vous propose deux lectures possibles. La lecture de l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, qui a été écrite par le pape Saint Jean-Paul II en 2003 sur l'Eucharistie, dans son rapport à l'Église. Et puis l'exhortation apostolique post-synodale, la lettre du pape Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, sur l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Face à une telle promesse, face à une telle réalité, nos intelligences sont dépassées. Donne-nous, Seigneur, par la grâce de ton Esprit Saint, de reconnaître que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu viens nous nourrir, tu viens nous fortifier à chaque Eucharistie, par ta parole, par ton pain de vie. Que ce sacrement de l'amour nous donne d'être de plus en plus unis à toi et donnés à nos frères. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission qui aura, je l'espère, donné le goût de l'Eucharistie. Vos réactions, vos commentaires, vos partages sont les bienvenus sur les réseaux sociaux et sur notre site internet ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.
La matinale, présentée par Maxence Éloi. KTO Radio.
De retour dans les studios de KTO pour continuer la matinale. Si vous nous rejoignez, sachez qu'un nouveau temps de prière est à suivre en direct à 9h30 avec l'office du Jeudi Saint au Sacré-Cœur de Montmartre. La messe de la scène du Seigneur, elle est à retrouver à 19h ce soir sur KTO TV et KTO Radio depuis l'église Saint-Germain l'Auxerrois. Voilà pour le programme des offices. La matinale, elle, continue comme son habitude jusqu'à 9h. Dans une dizaine de minutes, il y aura le journal de Radio Vatican. Nous réécouterons aussi l'invité de la matinale, c'était Marie-Noëlle Tabu qui était avec nous ce matin à 7h. Mais tout de suite, on écoute la chronique écologie humaine de Tuc du Halderville.
Bonjour, avez-vous déjà entretenu un aquarium ? Pour assurer l'équilibre de ce mini-écosystème, les aquariophiles ajoutent souvent aux espèces rutilantes un poisson chargé de nettoyer l'aquarium. De la catégorie des détritivores, ce poisson n'est pas de couleur chatoyante, mais quelle utilité ! Il ingère la pellicule de déchets qui finit par tout recouvrir, y compris les vitres. Sortons maintenant dehors. Regardez les corbeaux, à la réputation aussi sombre que leur plumage. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais quelle débrouillardise, à la campagne comme à la ville. Autour de nos poubelles, ils rivalisent d'ingéniosité pour récupérer nos déchets alimentaires. Vous savez sans doute que la famille des corvidés, qui comprend aussi les pies, choucas, corneilles et autres geais, est réputée pour son intelligence. Elle n'aurait rien à envier à celle des grands singes. Les corbeaux savent travailler en équipe, anticiper les réactions de leurs congénères, deviner leurs intentions. Apprendre en imitant. Ils seraient même capables de reconnaître le visage d'un être humain qui les a déjà agressés. Voulez-vous un exemple fascinant de leur adaptation à nos mœurs ? Certaines colonies de corbeaux tirent parti de la circulation automobile. Ils déposent des noix sur les passages piétons quand le feu est rouge, attendent le vert pour que les voitures les écrasent, puis le feu rouge suivant pour les déguster en toute sécurité. Les zoologues ont étudié le cerveau du corbeau très dense. Il dispose d'un pallium élaboré. C'est la zone qui correspond chez les animaux à notre cortex, spécialisé dans la planification et la mémoire. De plus, les petits corvidés, restant longtemps avec leurs parents, bénéficient d'une éducation poussée. L'Homo sapiens est bien plus malin qu'un singe. Pas étonnant qu'il ait eu l'idée de mettre l'intelligence du corbeau à son service. Des éleveurs ont trouvé le moyen d'inciter ces oiseaux surdoués à ramasser nos déchets les plus immangeables. Les fauconniers du Puy du Fou se sont lancés dans l'aventure en 2018 avec les mégots. 30 milliards sont abandonnés dans la nature chaque année en France. Au parc d'attractions, une escouade de corbeaux a été dressée à en ramasser sur les parkings et à les mettre dans des boîtes en échange d'une friandise. Une start-up marseillaise a ensuite travaillé à optimiser le processus en y adjoignant de l'intelligence artificielle pour identifier chaque objet ramassé et n'offrir la friandise que s'il n'est ni végétal ni minéral. Un Français sur trois avoue encore jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture. Les corbeaux ne suffiront pas à régler ce problème de tout ce que nous éparpillons dans la nature. Mais les concepteurs de ces solutions de coopération homme-animal ne se cachent pas qu'ils éduquent surtout les corbeaux pour nous rééduquer. Voir des volatiles s'acharner à ramasser avec leur bec ce que nous jetons avec nos mains devrait nous faire monter la honte au front. La conscience que les corbeaux peuvent nous rendre service ne date pas d'hier. La Bible raconte que le grand prophète Élie a bénéficié de leur aide quand, réfugié au torrent de Kérit, il eut faim. Des corbeaux lui apportaient de la viande matin et soir. Que cet incontestable ravageur de nos cultures devienne aussi, pour partie, un nettoyeur réparateur de nos dégâts, c'est une bonne nouvelle.
Merci à Tuc du Halderville. Je vous propose maintenant de continuer la matinale avec le groupe de louanges Momentum Music et leur titre Triomphe sur KTO Radio.
Chantons ta victoire. trésor du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par amour, par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Ton amour a triomphé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. T'as maltraité, toi tu guérissais, on t'a dépouillé, toi tu rachetais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. Nous chantons ta victoire, oh, oh, ton triomphe à la croix, oh, oh, nous proclamons ta gloire, oh, oh, Jésus, c'est le
Neuf, bienvenue sur KTO Radio. Si vous nous rejoignez, direction maintenant Rome pour le journal d'actualité de la rédaction française de Radio Vatican.
KTO Radio.
Laudetur Jesus Christus.
Vous n'êtes pas seul, les mots du pape François dans une lettre aux catholiques de Terre Sainte, une lettre quelques jours avant Pâques pour manifester sa proximité et son espérance dans cette région blessée par la guerre. Nous entendrons la réaction d'un prêtre curé dans le nord d'Israël au début de ce journal. L'Italie veut briser les liens familiaux dans la mafia, un protocole qui permet de retirer les enfants des clans mafieux pour leur offrir un meilleur avenir fait ses preuves dans la péninsule. Les explications à venir. Au sommaire de ce journal, le témoignage d'une religieuse missionnaire en République dominicaine. Elle travaille auprès des migrants qui fuient le chaos du pays voisin, Haïti. Et puis dans notre dossier ce matin, ce jeudi saint, fête de l'Eucharistie et du sacerdoce, gros plan sur la figure d'un prêtre, le père Roger Bamogo est aumônier militaire au Burkina Faso et exerce son charisme et son sacerdoce dans un contexte sécuritaire difficile. Le témoignage, ce sera à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour, vous n'êtes pas seul. Les mots forts du pape François à l'égard des catholiques de Terre Sainte alors que le Triduum Pascal s'ouvre ce soir par la messe de la scène du Seigneur. Le souverain pontife a adressé hier une lettre de solidarité et d'espérance aux 200 000 catholiques qui vivent une semaine sainte endolorie par la guerre au Proche-Orient. François, qui appelle quotidiennement la paroisse catholique de Gaza depuis le mois d'octobre, s'adresse non seulement aux catholiques d'Israël, de Palestine, mais aussi à ceux du Liban, de Jordanie ou encore d'Égypte, les exhortant à demeurer des flambeaux dans la nuit sur la terre du Christ. Le père Elie Kourzoum est prêtre du patriarcat latin de Jérusalem. Il est actuellement curé de la paroisse de Shepham dans le nord d'Israël. Il réagit à cette lettre du souverain pontife.
Ça fait bien au cœur aussi dans cette situation difficile où nous sommes en train de passer tous ces mois de guerre et de désolation pour une raison qui n'est pas une vraie raison, parce que la vraie raison, c'est la paix. C'est que les deux peuples doivent vivre ensemble et que cette situation, comme dit le pape, de haine qui est en train d'envelopper tout le monde et surtout... C'est pas une cause de sécurité ni pour l'un ni pour les autres, mais une vraie vengeance des uns aux autres. Ce message de pape, peut-être il peut faire l'attention des gouvernants qu'ils pensent vraiment à une solution de paix et de justice pour cette terre. Ça fait peut-être des années qu'on est en train de porter cette croix et on perd pas l'espérance qu'un jour on arrive à cette résurrection et que les responsables aient vraiment la sagesse de trouver une solution pacifique et juste pour tout le monde.
Le père Elie Kourzoum, curé de la paroisse de Shepham, dans le nord d'Israël, il répondait à Delphine Allaire. Hier, avant son audience générale, le pape avait salué et béni deux amis, Bassam Haramine et Rami El Hanan. Le premier est palestinien et a vu sa fille tuée en 2007 par un soldat israélien. Le second est israélien, il a perdu la sienne dans un attentat suicide 10 ans plus tôt à Jérusalem. Les deux hommes se considèrent comme des frères et donnent des conférences sur la paix dans le monde entier. Si la colère se transforme en vengeance, alors il faut construire deux tombes, l'une pour votre ennemi et l'une pour vous, explique Rami El Hanan. Pensons à ce très beau témoignage de ces deux personnes qui ont souffert du décès de leur fille dans la guerre en Terre Sainte, a dit le pape hier aux fidèles dans la salle Paul VI. Chers frères, merci pour votre témoignage. Dans la bande de Gaza, il est toujours bien difficile, hélas, de parler de paix. Encore faut-il que les bombardements israéliens cessent sur l'enclave palestinienne. Ils ont au contraire redoublé la nuit dernière. Le Hamas parle ce matin de 66 personnes tuées. Mais dans cette guerre, il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Ainsi, pour la première fois depuis le conflit, le 7 octobre dernier, des enfants gazaouis ont pu être transférés en Cisjordanie pour y être soignés. Au nombre de 68, ces enfants vivaient à Rafah. Ils ont été pris en charge par l'association Secours aux enfants Bethléem qui s'occupe de leur suivi médical. Une association qui est notamment soutenue par la Conférence épiscopale de la Suisse. Et puis cette guerre fait toujours aussi rage dans le sud du Liban. Des échanges de tirs entre l'armée israélienne et des miliciens du Hezbollah, soutien du Hamas, ont fait hier au moins 16 morts. Partons pour l'Italie, où le gouvernement s'attaque aux familles mafieuses. Un programme qui a déjà fait ses preuves en Calabre, terre de la 'Ndrangheta, va être appliqué dans d'autres bastions de la criminalité organisée, en Sicile et en Campanie. Ce protocole, appelé « libre de choisir », permet de retirer les enfants de mafieux pour leur offrir un avenir loin des parcours criminels auxquels ils étaient destinés. Les précisions de Blandine Hugonnet.
Dans le contexte mafieux où les liens du sang priment, l'avenir des mineurs semble scellé. Un avenir dans le crime, c'est ce à quoi veut remédier ce programme italien. Les enfants de mafiosi sont d'abord repérés et signalés par les services sociaux ou la police. Au cas par cas, la justice italienne commence par ordonner de la psychothérapie ou des cours d'éducation civique. Pour les situations plus graves, s'il est confronté aux armes ou à la drogue, l'enfant est retiré sans préavis et mis à l'abri dans des maisons gardées secrètes. Dans les cas extrêmes enfin, le juge le fait conduire dans une autre région et placer en famille d'accueil protégé jusqu'à sa majorité. Un moyen radical de couper avec les racines du mal, pensé par un juge calabrais qui raconte avoir vu des enfants forcés de tuer leur propre mère. Il a lancé le projet en 2012 pour enrayer le cycle des mafieux de naissance et les éloigner de cette culture de contrôle et de violence où dès 8 ans, ils apprennent à tirer au pistolet, à cacher et vendre la drogue et à échapper à la police. Sur les terres de Cosa Nostra, à Catane et à Palerme, mais aussi sur celles de la Camorra à Naples, ce sont donc 3 nouveaux services qui vont s'ouvrir. En Calabre, terre de la plus redoutable des pieuvre, la Ndrangheta, 150 mineurs et une trentaine de femmes sont déjà protégées par ce programme, sollicitées aussi par 2 anciens parrains qui ont décidé de protéger leurs enfants des griffes de leur propre clan. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
Troisième et dernier jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Brésil. Le président français a mis en scène jusqu'ici sa relation avec le président Lula, s'engageant notamment à collaborer sur des sujets comme la justice climatique. Hier, le président français a plaidé pour bâtir un nouvel accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Avec plus de 40 milliards d'euros, la France est le 3e investisseur au Brésil. La violence des gangs à Haïti bouleverse les cérémonies pascales à venir. Vu le contexte sécuritaire, l'archevêché de Port-au-Prince a publié une note expliquant que la veillée pascale samedi soir n'était pas obligatoire. Hier, 170 ressortissants français ont été évacués par hélicoptère du pays. De nombreux Haïtiens tentent eux de fuir le chaos et de rejoindre la République dominicaine voisine, où ils ne sont pas les bienvenus. C'est ce que nous explique Sœur Maria Eugenia Vasquez. Cette religieuse missionnaire scalabrienne argentine travaille sur place auprès des migrants.
Nous savons que l'accès aux frontières est très restreint. Le gouvernement ne permet pas aux migrants haïtiens d'entrer. Il n'y a pas de visa haïtien. Les visas haïtiens ne sont pas accordés. Même les consulats dominicains en Haïti sont fermés. Donc les gens qui arrivent viennent de manière irrégulière. Et c'est pourquoi il est très difficile d'avoir des données précises et de dire si leur nombre augmente ou non. Nous, nous travaillons dans la ville de Los Reyes, sur la côte nord-est. Et ce que nous constatons dans la région où nous nous trouvons, c'est qu'une population haïtienne arrive dans les zones rurales. Mais certains d'entre eux sont des migrants qui se trouvaient déjà en République dominicaine et qui, en raison de la question des déportations et d'autres situations, se déplacent vers les zones rurales pour une plus grande sécurité parce qu'ils risquent d'être expulsés, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, etc.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Direction le continent africain, au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a remporté l'élection présidentielle avec plus de 54% des voix, selon les résultats officiels publiés hier soir. Il devance de près de 20 points Amadou Ba, l'ancien premier ministre de Macky Sall. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Au Burundi, le gouvernement a entrepris un recensement des réfugiés et des étrangers dans le pays. La décision a été prise par le ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Les motifs de cette entreprise sont peu clairs, mais certains estiment qu'il s'agit d'une opération destinée à traquer les irréguliers installés dans le pays, en l'occurrence des Rwandais. Les relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda sont au plus bas depuis plusieurs mois. Bujumbura, Léonce Bitario.
Les salles d'enregistrement sont pleines à craquer. Les agents recenseurs sont de temps en temps débordés par un grand nombre de réfugiés et étrangers venus pour ce programme de recensement. L'opération se déroule au chef-lieu des zones de la capitale économique Bujumbura, ainsi qu'au chef-lieu des provinces pour tous les étrangers et les réfugiés urbains, sauf pour les réfugiés des camps où l'activité se déroule dans leurs camps respectifs. Selon un communiqué signé Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, tous les étrangers doivent se présenter à ce recensement munis des documents leur permettant de s'établir au Burundi. Le communiqué n'est pas précis sur l'objectif de l'opération. Ce recensement suscite des interrogations chez les concernés qui disent ne pas savoir ce qui va suivre après. L'enjeu majeur serait au niveau de la sécurité pour traquer les irréguliers installés au Burundi. Des attaques armées attribuées au mouvement Red Tabara ont fait des victimes dans des zones frontalières avec la République démocratique du Congo. Mais c'est le Rwanda qui a toujours été accusé de soutenir militairement et financièrement ces rebelles. Les frontières entre le Burundi et le Rwanda restent fermées officiellement depuis le 11 janvier. Léon Sebitalio, Bujumbura. Radio Vatican.
Et puis un mot du Tchad où 10 candidats invalidés par le Conseil constitutionnel appellent à empêcher la dictature de Mahamat Déby à l'approche du premier tour de la présidentielle prévue le 6 mai prochain. L'Église commémore donc aujourd'hui l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. En ce jeudi saint, le pape présidera ce matin à 9h30 la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre. À cette occasion, François, évêque de Rome, sera entouré comme chaque année de tous les prêtres de son diocèse appelés à renouveler leurs promesses sacerdotales. Témoignage ce matin d'une figure d'un prêtre, le père Roger Bamogo, en tant qu'aumônier militaire catholique de la première région de Kaya au Burkina Faso. Le père Bamogo s'occupe de l'accompagnement spirituel et moral des militaires appelés à combattre au front contre les terroristes. Il nous partage ce matin son témoignage.
Avant d'aller en mission, ils viennent pour demander des bénédictions. Et ou bien, souvent, sur le terrain, quand ils sont en détachement, souvent, ils arrivent à faire une petite chapelle. On essaie de les aider à les équiper. Aussi, bon, souvent, on leur envoie des textes. Au niveau de l'accompagnement social, nous essayons d'occuper la place des hommes quand ils ne sont pas là pour être aux côtés des familles.
Quelles sont les difficultés les plus pointues que vous rencontrez dans votre apostolat, dans un contexte de crise sécuritaire?
Avec la situation sécuritaire, il arrive souvent qu'il y ait des hommes qui tombent sur le front. Et en tant que prêtre, quand tu te retrouves devant une dizaine de cercueils, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, même on a déjà fait, bon, c'est pas simple. Les conditions dans lesquelles ces gens sont tombés, ça alourdit la douleur. Quand on rencontre ces gens et qu'ils nous racontent les difficultés qu'ils vivent dans les détachements, l'austérité et surtout aussi la menace de la mort qui plane sur eux. Et en plus, en tant que chrétien, le problème de ne pas tuer revient alors que leur mission les amène souvent à éliminer l'ennemi. Donc, c'est des moments quand même où, en tant que prêtre, souvent, j'allais dire même, bon, c'est l'Esprit Saint qui vient au secours. Tu ne sais pas quel mot juste placer pour encourager la personne, l'aider à remonter la pente.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou touché dans cet apostolat si particulier?
Dans mon apostolat, une fois, on est allé en détachement à Djibo. C'était à quelques jours de l'attaque d'Inatan. Quand on est arrivé, d'abord, quand je voyais les gens dans le détachement, j'ai dit, c'est une zone reculée, une zone où la menace est. À regarder les visages, tu sens que c'est pas des gens qui sont joyeux. C'est une situation vraiment d'inconfort. Vous savez, nous sommes en Afrique. Et souvent, dans cette situation, il faut des trucs de protection. Alors que les catholiques, nous, on dit, il faut compter sur Jésus-Christ. Il y a des gens qui nous disent, voilà, on m'a proposé ceci. Qu'est-ce que je fais? Ceux qui arrivent à poser cette question, ça veut dire, c'est des gens qui font une lutte interne. C'est des questions quand même où il faut pouvoir dire quelque chose.
Et dans de telles circonstances, comment vous arrivez à communiquer le message du Christ?
Bon, on essaie de présenter la chose telle que l'Église nous enseigne. On essaie de leur dire de mettre la confiance en Jésus-Christ. Voilà. Heureusement aussi, on a des retours qui encouragent pas. Les gens aussi disent vraiment, mon chapelet, mon dizainier, ou bien la médaille de l'archange Michel que vous m'avez donnée, ainsi de suite. En tout cas, à un moment donné, ça m'a aidé.
En ce jeudi saint qui commémore l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, comment entendez-vous offrir la grâce de l'Eucharistie au cœur blessé des Burkinabés?
En ce jeudi saint où Jésus nous a laissé ce sacrement de salut, c'est l'occasion pour nous d'engager les fidèles chrétiens, de tourner notre regard vers le Dieu Tout-Puissant pour lui rendre grâce d'abord pour la vie. Parce que même dans ce contexte du terrorisme, on rend grâce à Dieu et on implore sa miséricorde vraiment. Je dirais que Dieu est toujours fidèle. Souvent, quand c'est dur, nous avons tendance à nous lamenter, mais il veille toujours. Je pense et je crois qu'il n'est pas insensible et que tôt ou tard, en son temps, il nous répondra favorablement. La guerre finira, la cohésion sociale d'antan que nous avions reviendra, surtout la ferveur des gens dans les églises reprendra de plus belle.
On va l'interroger par Myriam Sandouno. Le père Roger Bamogo, aumônier militaire catholique au Burkina Faso, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous à 9h25 en direct sur notre site et notre page Facebook pour la messe de la messe chrismale présidée par le pape François depuis la basilique Saint-Pierre. Je vous souhaite une excellente journée.
Vous écoutez KTO Radio.
Et prochain point d'information sur KTO Radio à 12h30 avec le journal Afrique. Toute cette semaine, les catholiques revivent à travers les offices liturgiques les derniers moments du Christ avant sa crucifixion. Un temps qui découche sur la joie de Pâques et que nous révèlent les textes sacrés. Des textes que connaît bien la bibliste Marie-Noëlle Tabu, qui était notre invitée ce matin à 7h dans l'invité de la matinale.
L'invité de la matinale. KTO Radio.
Sur le chemin vers Pâques, le Triduum Pascal invite tous les chrétiens à célébrer le mystère de la foi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comment est-il construit? Quel message essentiel nous propose la liturgie de la parole? Je remercie la bibliste Marie-Noëlle Tabu d'être avec nous en studio ce matin, ce jeudi saint. Bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour.
Les auditeurs et les auditrices vous connaissent bien et apprécient surtout vos lectures et commentaires des textes. Marie-Noëlle, je me demandais avant l'interview et pour débuter, quelle est la signification du terme Triduum Pascal?
Trois jours, un seul jour en trois, comme on dit trinité pour triunité, c'est la même chose, c'est un unique jour.
Et Pascal?
Oh, Pascal, autour de la fête de Pâques, bien sûr, qui est le centre quand même de toute l'année liturgique.
Alors le Triduum Pascal, c'est donc trois jours, vous l'avez dit, au cours desquels les chrétiens sont invités à célébrer la mort et la résurrection du Christ. C'est une plongée dans le récit biblique. Comment s'articule ce temps? Commençons par le Jeudi Saint, si vous voulez bien, Marie-Noëlle. Jeudi Saint où les catholiques commémorent d'abord l'ultime repas du Christ, la scène.
Oui, mais il me semble... De toute façon, on va se mettre en état de contemplation hein, pour écouter tout ça, pour le revivre. Il me semble que ces trois jours vraiment n'en font qu'un et qu'il ne faut pas l'oublier. On est illuminé dès le début, c'est des chrétiens qui célèbrent. Donc on est illuminé dès ce matin, enfin dès ce soir, l'office normalement et le jeudi soir. On est illuminé déjà par la résurrection et ça je crois que c'est très important. Mais qu'il faut s'y préparer et qu'il faudrait se mettre en état d'écoute et de contemplation, c'est tout. Savoir qu'on ne va pas tout comprendre, mais on va le vivre. Et deuxième résolution, je dirais le vivre avec toute l'Église. Ce n'est pas un individu qui se rend à ces célébrations, c'est toute une communauté. Et ça, c'est superbe, et ça, c'est toute l'Église universelle. Alors, le Jeudi Saint, bien sûr, nous allons vivre donc tous ces événements. On a eu un peu, il me semble, le Dimanche des Rameaux, un résumé de ce paradoxe incroyable, quand même, de douleur et de gloire. Dès le Dimanche des Rameaux, ça a été ça. On a commencé dans le triomphe, on a terminé dans le dénuement, avec le récit de la Passion, le dénuement, la déchirure, la fin. C'est effrayant, et pas la résurrection. On l'a quand même célébré dans l'Eucharistie, heureusement, on ne l'a pas oublié. Et alors, je dis donc, au début de l'Église, il n'y avait qu'une seule célébration, et c'est peu à peu qu'on a divisé en trois. Le mot divisé, bon, on va dire étalé en trois. Et donc, plus particulièrement aujourd'hui, ce sera l'Eucharistie, le don incroyable de l'Eucharistie, avec des textes extraordinaires. Hein. Alors, il y a quand même un texte qui, au départ, est un peu étonnant. C'est ce chapitre de l'Exode. Je dois être honnête, moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais oh, Exode 12, vous voyez, prenez un agneau, oh là là, mal, âgé d'un an, mais c'est quoi cette histoire? Un Dieu qui demande des choses pareilles? Je me disais, mais c'est pas ma religion, ça. Ben, si. Mais ça nous remonte évidemment assez loin. Donc ce texte d'Exode 12, ensuite le psaume magnifique, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, c'est superbe. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Donc là, on entre vraiment dans la contemplation du don. Et puis, alors le récit de l'Eucharistie chez saint Paul, on l'aurait attendu dans l'Évangile, mais c'est une belle leçon, je trouve. Chez saint Paul, à un moment de querelle dans la communauté, hein, il faut remettre les choses en place, remettre la communauté un peu dans les rails, et en même temps, il dit le récit de l'institution, puisque c'est le quatrième récit. Vous savez, ça a toujours été mon étonnement. Il n'y a que trois évangiles qui donnent le récit de l'institution de l'Eucharistie, les trois synoptiques, et puis pas Jean. Mais on va savoir pourquoi.
Oui,
et puis Paul.
Dites-nous.
Paul dans la première aux Corinthiens. Et justement, alors ce qui est très intéressant dans la première, dans l'évangile de Jean, c'est le lavement des pieds. Ça veut dire qu'il ne raconte pas l'Eucharistie, l'institution. Il a donné tout le chapitre 6, que nous aurons cet été d'ailleurs, parce que c'est l'année des B qu'on va l'entendre. Tout le chapitre 6 de Saint Jean est ce grand discours eucharistique à Capharnaüm. Mais ce soir, ce sera le lavement des pieds, une leçon suprême, quoi. Faire mémoire de lui, c'est effectivement participer à l'Eucharistie, mais c'est aussi servir nos frères. Je trouve que là, on a une leçon immense.
Et après, le jeudi saint vient vendredi, qui est traditionnellement un jour de jeûne pour les catholiques.
Oui, et aussi le samedi, d'ailleurs. On l'a un peu oublié. Normalement, le jeûne pascal, comme on l'appelle, devrait durer 2 jours. Mais bon, déjà, contentons-nous peut-être de le respecter demain, ce sera déjà bien. Alors, le vendredi, bien sûr, hein, je ne vais rien vous apprendre avec ce grand récit de la Passion, la vénération de la croix, et quand même le partage du pain eucharistique. Merci. Mais ce récit de la Passion est comment dire, somptueux, magnifique chez saint Jean, mais très, très dur aussi. Moi, j'ai toujours en tête la phrase... Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et il me semble que là, on est invité, comment dire, pour moi, le spectacle de la croix, c'est peut-être la seule façon pour Dieu d'arriver à transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et je suis toujours frappée, j'aime beaucoup Florence, la ville, et à Florence, dans le couvent de Frangelico, il y a cette étonnante, comment dire, visite qu'on peut faire de toutes les cellules. Dans presque toutes les cellules, c'est Frangelico qui a peint des fresques. Quelquefois, c'est son frère Bartolomeo, enfin le frère Bartolomeo. Et Frangelico, systématiquement, a peint des scènes de la Passion, avec l'horreur que ça représente. Et je me dis, ben, il avait tout compris. Il n'y a que ça pour changer nos cœurs de pierre.
Et puis... Le samedi saint, jour de grand silence, vous l'avez dit, qui est un peu plus méconnu par rapport au vendredi.
Oui, mais précisément parce que l'Église est en silence, avec ce terrible silence quand même. On peut s'interroger sur ce silence de Dieu. C'est terrible. Et il faut qu'on apprenne que dans ce silence se préparait la résurrection. Donc ça, c'est très important, mais il y a quand même ce grand espace vide, volontairement laissé vide par l'Église. Et nous sommes invités à la célébration pascale seulement le soir, mais toute la journée, nous n'aurons pas l'Eucharistie, normalement.
Et parlez-nous, après, vous l'avez dit, vient Pâques et la résurrection. Parlez-nous-en un peu.
Alors là, méfiez-vous. La vigile pascale, c'est le moment absolument extraordinaire. C'est Jean 23 qui disait que le mystère pascal, et en particulier cette veillée, est comme une fontaine de village, source et sommet de toute l'année, il disait. Ça, on l'a peut-être oublié hein, quand on n'y va pas. Et c'est la fontaine de village où chaque génération va se ressourcer. C'est fabuleux. Alors la liturgie de la vigile pascale, nous pourrions en parler des heures. Elle est magnifique. Vous connaissez l'origine? Je crois avoir trouvé l'origine des textes de la nuit pascale, parce que 7 premières lectures, c'est quand même beaucoup, entrecoupées de psaumes chaque fois, et ensuite viendront l'épître et l'évangile. Et les 7 prières, je crois, viennent, ce qui n'est pas choquant, de la liturgie juive. Et dans la liturgie juive, alors c'est plus que dans la liturgie, c'est dans les commentaires du livre de l'Exode de la sortie, d'Égypte, le commentaire qu'on appelle le Targum, parce que c'est une traduction en araméen, est très intéressant. Il ajoute, c'est pas seulement une traduction pure, il y a des ajouts, des gloses, et voilà ce que dit le commentaire. Il s'appelle le poème des 4 nuits. Je vous le raconte parce que je crois que c'est important. La première nuit, c'est quand le Seigneur se manifesta sur le monde pour le créer. Alors ça, c'est ce qui va donner notre Genèse 1, qui sera la première lecture de la nuit pascale. La deuxième nuit, quand le Seigneur apparut à Abraham, âgé de 100 ans, et à Sarah, sa femme, âgée de 90 ans, pour ce qu'on a appelé la ligature d'Isaac. La troisième nuit, c'est quand le Seigneur apparut aux Égyptiens au milieu de la nuit. Il protégeait les premiers-nés d'Israël pour que s'accomplisse l'écriture « Mon fils premier-né, c'est Israël ». Et enfin, alors troisième nuit, vous avez eu les 3 premiers textes, Genèse 1, Genèse 22, la ligature d'Isaac, Exode 12, Pâques. La quatrième nuit, dit le texte, est quand le monde arrivera à sa fin pour être racheté. Alors les joues de fer seront brisées et les générations perverses seront anéanties, etc. Et il annonce la venue du Messie. Et je crois donc que nous avons eu nos trois premières nuits et les quatre autres lectures sont le développement de cette quatrième nuit. Et quand j'ai cette clé-là pour lire les textes de la nuit pascale, pour moi il s'éclaire, je comprends mieux le choix des quatre autres textes.
Pour certains catholiques qui doutent de l'authenticité du récit biblique, qui douteraient même de la résurrection, que souhaiteriez-vous leur dire ?
Qu'est-ce que je leur dirais ? D'abord, venez et voyez la joie des chrétiens. Alors, évidemment, je nous renvoie à la mission d'être joyeux. Et puis, je n'ai pas oublié la phrase de Jésus, le fameux soir du jeudi, que nous célébrons jeudi saint. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, je me dis à nous. Ceux qui ne sont pas heureux dans nos communautés, ceux qui ne sont plus heureux dans la foi, c'est peut-être à nous de compenser avec notre joie, notre vie communautaire et notre chaleur, quoi. Faisons-les entrer dans la chaleur.
Et aux chrétiens qui vivent trop mollement l'écoute de ces textes.
Alors là, je critiquerai personne.
Parce que c'est pas forcément facile.
D'abord, tout ça n'est pas très clair. Oui. Donc, à nous de nous donner, la mission d'expliquer, de commenter, sans prendre la place de la parole. Tout le problème est là. Et sans dire notre parole, essayer seulement de faire résonner la sienne. Mais je me dis aussi que, après tout, ne culpabilisons personne. Les apôtres ont mis bien longtemps à comprendre. Ils ont quand même abandonné la nuit même. Ils venaient de vivre avec lui je ne sais combien de mois. Et je ne sais combien d'actes, de paroles. Ils ont quand même eu bien du mal. Alors nous aussi, on en a. Ne nous culpabilisons pas. Mais allons-y. Je me dis quelquefois, Marie-Madeleine n'avait pas tout compris. Elle a quand même été annoncée aux apôtres. Eh bien, à nous qui n'avons pas tout compris, n'attendons pas d'avoir tout compris pour aller annoncer.
Et vous, Marie-Noëlle, qui travaillez ces textes depuis des années et de nombreuses années, êtes-vous encore émerveillée ? Je pense que oui, au vu de votre sourire.
De plus en plus, mais je prends aussi de plus en plus conscience que j'ai vraiment pas tout compris. Mais bon, je lui fais confiance pour nous éclairer et puis compenser mes manques. Auprès des autres, auprès des auditeurs.
Plus vous les connaissez et plus vous avez l'impression de ne pas les...
C'est magnifique, bien sûr, mais c'est magnifique. Moi, je suis émerveillé à chaque fois et je vous remercie de me donner encore une fois l'obligation de m'y replonger. Quel bonheur.
Et puis, merci à vous d'avoir été avec nous, Marie-Noëlle, en ce jeudi saint. Merci d'être venue en studio à cette heure assez matinale pour éclairer nos auditeurs sur le Triduum Pascal. On vous retrouve dans l'émission En Marche vers dimanche pour vos méditations et des textes du dimanche. On vous retrouvera aujourd'hui sur KTO Radio à 17h45. Le rendez-vous est donné pour les auditeurs. Et j'annonce aussi votre livre, L'intelligence des écrits. Publié aux éditions Artege. Belle journée à vous et bonne montée vers Pâques, Marie-Noëlle.
À vous aussi, merci.
Sur KTO Radio. Si vous voulez retrouver tous les programmes de KTO Radio, il y a trois adresses, le site kto-radio.com, l'application mobile KTO Radio ou les plateformes de streaming comme YouTube. Si vous voulez par exemple réécouter l'invité de la matinale avec Marie-Noël Tabu, c'est la fin de la matinale, mais les programmes continuent sur KTO Radio. À 9h30, vous pourrez suivre depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris un nouveau temps de prière avec l'office du Jeudi Saint. Je vous remercie de votre fidélité.